Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard.
Et avec les grandes voix, nous sommes vendredi soir et vous le savez, nous allons débattre, échanger, discuter avec ces grandes voix que vous attendez tant toute la semaine. Catherine Ney est avec nous. Bonsoir Catherine. Ça va Catherine ?
Très bien.
Gérard Carrérou également.
Bonjour Mathieu.
Ça va Gérard ?
Ça va.
Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu tous les deux. Non mais entre mes vacances,
mais faut se demander qui
le
était
salon
pas là.
De l'agriculture, bon je vous retrouve pour voilà. Mon plus grand plaisir, le plus grand plaisir des auditeurs. Benjamin Muller est avec nous.
Bonsoir Mathieu.
Là il se dit c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il m'introduit
Ça y est je suis une grande voix.
Ouais, parce que je voulais terminer par Charles Villeneuve, bonsoir Charles.
Bonsoir.
Parce qu'on se parlait hors antenne, c'était pas le thème qui est prévu ce soir, l'Algérie, les rues d'Alger, noires de monde. On en parlait la semaine dernière.
La manifestation d'aujourd'hui est quasiment au moins un tiers plus importante que celle du 8 février, c'est-à-dire ça, vendredi dernier, qui était considérable. Et là, vraiment, il y a des familles entières avec leurs enfants, les femmes, les pères de famille qui sont venus et qui arrivent de partout, notamment des quarts de la Kabylie, qui a toujours été une région frondeuse, c'est vrai, mais qui alimente par centaines, par milliers des manifestations dans plusieurs villes. Ça ne se limite pas à Alger. Toutes les villes, Oran, Sétif, Annaba, tout l'ouest, tout l'est, jusqu'au sud saharien, à la Gouate, etc. Et donc pour moi, si vous voulez, notamment la conférence de presse de ce matin, tenue par le nouveau gouvernement, qui se veut être le nouveau gouvernement, était d'un ridicule achevé et sonnait le glas par rapport aux journalistes algériens de ce régime. Parce qu'il y avait le Premier ministre qui est en réalité l'homme lige de Bouteflika, qui était son ministre de l'Intérieur, Nourdine Bédoui. Et puis à côté de lui, il y avait le vice-premier ministre qui est dont le mentor, la Mamra, qui est un formidable d'ailleurs ancien ministre des Affaires étrangères, très connu dans le continent africain, très bon diplomate, mais dont le mentor est Bouteflika. Et en réalité, le glas qui l'a sonné, le chef d'état-major de l'armée algérienne, dimanche matin dernier, Gaïd Ahmed Salah, qui a dit « L'armée et le peuple ont la même vision de l'avenir de l'Algérie ». C'est à ce moment-là qu'il est rentré d'ailleurs, parce qu'il a compris que l'armée ne marcherait pas par rapport à ses intérêts.
C'est pour ça qu'on a les grandes voix sur Europe 1, parce que Charles Villeneuve, il vous improvise un papier géopolitique comme ça, et on a toujours besoin de vos lumières. Situation que nous suivons de très près depuis le démarrage en Algérie et nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. Benjamin, c'est à vous, ça y est.
Oui, Mathieu.
Ça va, Benjamin ?
Ça va très bien.
Comme chaque vendredi avec vous, on fait un peu le bilan de
la
semaine.
Quel moral, Benjamin ?
Lié au PSG, vous voulez dire ?
Non, oui, bien sûr.
On n'en parle plus ici, c'est devenu
tabou. On est
dans
la même situation, Charles.
Alors, cette semaine de Grand Journal, mon cher Benjamin, c'était comment ?
Oh, bah, c'était excellent, comme d'habitude. Mais, alors, juste avant de parler de nous, un mot de la matinale. Vous avez vu qui était l'invité de Nikos ce matin ?
Oui. Bonjour, monsieur le Premier ministre.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Édouard Philippe dans la matinale. Forcément, en entendant ça, chaque auditeur d'Europe 1 a dû se dire waouh, quand même, il pèse Nikos. Il a vraiment les invités 5 étoiles. Mais qu'on se rassure, au Grand Journal du soir aussi, on a les invités que tout le monde s'arrache.
On a étoffé ce dossier ce soir. Jean-Claude Périquet, vous êtes spécialiste des poules. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1.
Le spécialiste des poules en direct en plus chez nous. Ça, c'était de l'exclu. Et c'est pas Nikos qui l'a eu. C'était mardi, un grand moment. Lundi, la veille, Mathieu, vous avez reçu votre médecin, tiens.
Un petit mot quand même de restons fermes. La dernière fois que nous nous sommes vus, Sylvain Mimoun, c'était pour les 20 ans du Viagra.
Voilà.
Ouais, ben en consultant direct, tout va bien. Et donc, le Viagra ?
Le Viagra, c'est la béquille.
Bah oui, Mathieu, c'est tout le principe du médicament. Merci pour cette précision. Bref, cette semaine, on a aussi beaucoup parlé de foot. Bien sûr, Charles, notamment mercredi avant le match de Lyon à Barcelone. On était en ligne avec le jeune supporter lyonnais Corentin, tout à son enthousiasme d'être à Barcelone.
C'est ma première à Barcelone, effectivement. Je ne pouvais pas rêver mieux pour une première. D'autant plus qu'on ne connaît pas le résultat final, puisqu'on est encore incertain.
Parce que le match n'a pas été joué, ça va, évidemment, mon cher Corentin.
Sacré Corentin.
Il était 19h.
Bah, bien sûr, 2 heures avant le match, on connaît rarement le résultat. Quoique, dans l'époque, c'est déjà arrivé.
Enfin, j'ai demandé aux Lyonnais.
Le lendemain, on a eu un autre supporter de Rennes, cette fois en direct de Londres, avant le match contre Arsenal. Jean-Jacques Héry, qui est reporter à Europe 1, mais donc qui avait posé un RTT pour aller au match. Vous l'avez pris en direct, donc précision, 2 secondes avant l'antenne, notre réalisateur l'a mis au défi de placer Galette Saucisse dans son échange avec vous. Va-t-il y arriver ?
La ligne de métro pour rejoindre le stade s'appelle Victoria. Victoria, Mathieu, ça ne peut être qu'un signe.
Oui, Jean-Jacques, calmez-vous. Notre Galette Saucisse, elle est où ?
Franchement, tout le monde chante. On est chez nous, il ne manque qu'une seule chose pour qu'on soit vraiment chez nous, la Galette Saucisse.
Oh là là, quel talent !
C'est un défi de breton. Hein.
Bon, dommage que Rennes ait pris 3-0, c'est sûr que ça a un peu gâché le truc. Ah, on me dit que c'est l'heure d'une pub en direct avec Omblin.
Le bac, c'est dans moins de 100 jours. Aidez votre enfant à planifier ses révisions. C'est le meilleur moyen contre la procrastination avec Académie en
route. Attendez, on a mal entendu. On refait ?
contre la procrastination.
Merci. Ah, je me rends compte que je n'ai pas passé beaucoup d'auditeurs ce soir, alors qu'on en a eu plein d'excellents toute la semaine, comme toutes les semaines, vous allez me dire, avec notamment une super expertise, par exemple sur le Brexit mercredi, c'était Julien.
Le Brexit est-il vraiment un problème pour nous? C'est la question que nous posons et Julien est en ligne avec nous. Bonsoir Julien.
Bonsoir. Bonsoir Mathieu.
Soyez le bienvenu sur Europe 1 ce soir Julien.
Ben oui.
Ah, merci Julien.
Ensuite, ça c'est un starter. Hein. Ouais, ensuite, il y a eu le développement. En plus, il était très bon, Julien.
Il était très
un
bon.
Un peu intimidé au début. Peut-être.
Oui, c'est le principe du starter. Autre coup de fil intéressant lundi cette fois.
Manu est avec nous en direct ce soir. Bonsoir Manu.
Bonsoir Mathieu.
Alors Manu, est-ce qu'il s'appelle vraiment Manu?
Bonsoir Mathieu.
C'est un pseudonyme?
Exactement.
D'accord. C'est comme ça que m'appelle ma maman. C'est pour ça que ça me fait. Je devrais pas le dire.
Ah non, vous devrez pas le dire. Je vous confirme.
Je le sais, je le sais.
Allez, on fait un essai. Jean Omblin.
Oui. Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Manu Béliard.
Oh, magnifique.
Je vais envoyer ça à ma maman.
Ça passe très bien.
Grand plaisir. Merci Benjamin Muller. On peut rien dire. On peut
Mon
plus
rêve
rien dire dans ce
que
studio.
Les grandes voix vous appellent Manu jusqu'à 20h.
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit un rêve à proprement parler, mon cher Benjamin. Merci beaucoup et bon week-end. 19h29.
Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre le débat avec les grandes voix. Évidemment, nous allons revenir sur l'intervention d'Edouard Philippe ce matin dans la matinale d'Europe 1. Il était là de 7h30 à 9h. Face à Nikos Aliagas et à toute l'équipe de la matinale. On débrief, on fait finalement le débrief de cette interview avec les grandes voix Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard et sur Europe 1 le vendredi soir, les grandes voix d'Europe 1 à vos côtés Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Un exercice intéressant ce matin, Edouard Philippe, 7h30, 9h dans la matinale avec toute l'équipe, je dis la matinale de Nikos Aliagas, mais chacun des chroniqueurs, vous avez pu les entendre intervenir, poser leurs questions. Jean-Michel Apathy, Vincent Herouet, j'en oublie évidemment. Question que je posais à nos auditeurs, et je vais commencer par Catherine, hein, honneur aux dames. Est-ce qu'Edouard Philippe était convaincant? Le Premier ministre vous a-t-il convaincu ce matin?
Mais le style était convaincant en ce sens qu'on avait un Premier ministre qui a été un peu long à chauffer comme un moteur, vous voyez, qui était, parce qu'il arrivait, c'était tôt, il a dit le matin c'est un peu dur, il
a expliqué, matin,
oui, je ne suis pas du matin, mais il est arrivé et... Il sans avoir d'annonce à faire parce que ça n'est pas le calendrier qui est choisi. Je veux dire, on vient d'arrêter le grand débat aujourd'hui, puis il va y avoir maintenant on va regarder, on va faire le total des suggestions. Il y aura un débat parlementaire au début du mois d'avril. Le président doit parler et puis après c'est lui qui choisira entre les bon. Et on voit bien que le Premier ministre, il est dans l'attente. Quand il dit, par exemple, il a fait une seule annonce, c'est peut-être que sur les retraites, en disant que peut-être la désindexation, l'indexation sur l'inflation pourrait se faire. Ça, c'est une réponse, d'ailleurs, aux députés En Marche qui étaient réunis dimanche dernier et qui faisaient un peu un concours Lépine de tout ce qu'on pourrait taxer, pas taxer ou augmenter, c'est-à-dire les dépenses. Bon, là, il semble encore, tout en disant que c'était très compliqué à faire. Mais là, il a ouvert une petite porte, mais il l'a fermée aussitôt sur le retour à l'ISF. Il a dit qu'il n'y aurait pas de grand soir fiscal. Donc, vous voyez, il était dans une cage assez resserrée. Il ne pouvait pas tellement en sortir. Et malgré tout, moi, je trouve que sa réussite, c'est d'avoir... on avait une musique agréable. La façon dont il répondait aux auditeurs qui lui posaient des questions était aimable, intéressante, puisqu'il semblait satisfait de ses réponses. Et à la fois, il ne disait pas grand-chose parce qu'il ne le pouvait pas. Mais il n'y a pas de petite phrase désobligeante. Il n'y a pas, comme on ne guette pas, comme quelquefois avec Emmanuel Macron, la phrase qui va faire le buzz et on va dire « Tiens, encore une fois, il a raté, il ne comprend pas les gens. » Voilà, c'était un moment agréable.
Gérard ?
Je vais faire une confidence. J'écoute en général, et là je savais qu'il fallait que je sois à l'écoute à 7h30, précise, pétante, pour écouter le Premier ministre. Je l'écoute au lit où je me mets à mon bureau et je prends quelques notes. Oui.
Je veux la confidence.
En général, quand j'entends, dès que j'entends quelque chose qui percute, une annonce qui percute, je bondis du lit et je vais vite me mettre à mon bureau.
Et là, tu t'es endormi.
Non, je ne me suis pas endormi. J'ai écouté un homme extrêmement policé, élégant dans sa phrase. et qui disait des choses agréables à entendre, mais qui pratiquait, comme tu l'as esquissé, Catherine,
tu dis la même chose
stratégie.
Que moi, hein.
Oui, non, mais je suis d'accord là-dessus, la stratégie de l'évitement. Il passait entre les gouttes. Par exemple, les grosses gouttes castanères, il les a évitées, etc. Bon, et je me disais, bon, mais il va quand même. Quand on vient à Europe 1 entre 7h30 et 9h du matin, on a quand même au moins un ou deux trucs à dire. Et là, hormis cette petite... Mais on l'avait déjà entendu, ça. Oui. La réindexation des pensions...
Il disait le contraire, oui. Il y a 3 mois.
Mais, enfin, mais du côté Macron, on sentait que ça se faisait, ça. Oui. Mais à part ça, j'ai été extrêmement déçu. Et ça prouve une seule chose. Ça prouve que, une fois de plus, la République Macron, elle est centrée et elle dépend essentiellement du président Macron.
Oui, mais aussi de l'actualité, parce que le débat, les décisions
sur... Oui, mais quand même, il était venu pour parler de la sortie du débat. C'est lui qui a inventé, le Premier ministre, c'est lui qui a inventé le terme déceptif.
Oui.
Eh ben, je pense que ce matin, il a été un artisan du déceptif et de la déception.
D'ailleurs, je n'ai pas regardé dans le dictionnaire si c'est...
Je ne sais pas non plus. Mais voilà,
On va juste regarder là pendant l'émission si déceptif est bien dans le dictionnaire. Charles.
Bon, moi je crois qu'il y a plusieurs, il a plusieurs faces, le Premier ministre. Il a la face qui a séduit justement l'oreille des auditeurs, et tant mieux, et je l'espère. Mais c'est autre chose, c'est un dur. Pour moi, c'est un dur. Il est beaucoup plus dur que ce qu'il laisse transparaître, notamment. Quand il est dans la posture de communicant. C'est vrai qu'il est subtil, il vous donne toujours le sentiment d'avoir raison. Hein, vous, l'interrogateur. Bon, mais derrière ça, qui a tenu bon contre vent et marée sur les 80 km/h? Quel a été celui qui n'a jamais lâché, sauf à la fin, sur la taxe carbone? Le Premier ministre. Qui a envoyé au feu Darmanin sur les niches fiscales, c'est-à-dire là où se logent les déductions fiscales. Et quand Darmanin a fait son interview dans Le Parisien, et qu'il a vu de toute façon que ça réagissait très mal, hop, Matignon a démenti catégoriquement. Mais rien ne se fait sans Matignon. Matignon supervise, moi je l'ai vu avec l'interview de Mme Schiappa, qui a été corrigée à la virgule près, relue à Matignon. Et de la même manière avec... comment elle s'appelle déjà ?
Madame
Gouraud, qui a proposé au journal du dimanche que tout le monde paie l'impôt. Ça a été retiré quasiment dans l'après-midi. Et pourtant, elle était venue le dire avec l'autorisation de Matignon. Donc, il y a un autre Premier ministre. Il n'y a pas simplement, si vous voulez, celui qui a la taille de François Ier, presque 2 mètres, etc.
Sympa. Bon,
oui, et qui est courtois et qui est poli, c'est très bien.
Oui, mais là, tu en conclus quoi ? Qu'il surveille.
Mais oui, c'est un dur, comme tu dis, c'est un dur qui ne décide pas.
Mais qui laisse
en tout cas, qui nous montre que la décision, ce n'est pas lui qui la prend. Et tu as rappelé à juste titre qu'au moment où, effectivement, il fallait tout de suite annoncer, larguer l'histoire de la hausse des carburants pour janvier, eh ben, il était le seul qui s'est accroché encore à la hausse des carburants. Il a été le dernier à reconnaître.
19h38.
Europe 1.
Déceptif sur le site de l'Académie française. Ah. Déceptif, néologisme tiré de l'anglais déceptive, est un faux ami et c'est à tort qu'on lui donne le sens de décevant. Gérard ?
C'est une ruse, c'est la ruse, la déception. Ce n'est pas la déception. Ah, je suis déçu, j'ai pas eu.
Alors, il est déceptif.
Il est déceptif.
Non, ça va plus loin. La déception, c'est une méthode des services secrets, des services de renseignement. Et la déception, c'est tout l'art pratiqué par l'intelligence service, par les Anglais. C'est ça la déception.
Mais pourquoi est-ce que je suis allé sur le site de l'Académie alors qu'il suffisait d'écouter les grandes voix finalement ?
C'est étonnant quand même qu'ils sortent ce mot, effectivement, qui traduit quelqu'un qui joue une sorte de double jeu. Parce que c'est ça la déception.
C'est exactement ça.
On revient dans quelques secondes. Restez bien sur Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Évidemment, Édouard Philippe ce matin a été interrogé sur ces photos publiées dans Voici et dans Closer. Photo où l'on voit Édouard Castaner dans une boîte de nuit parisienne. C'est la nuit de samedi à dimanche dernier, juste après l'acte 17 des Gilets jaunes. On le voit boire des shots de vodka, on le voit en charmante compagnie, si j'ose dire. Est-ce que c'est un si gros scandale, une si grosse polémique, ou est-ce que finalement c'est du ressort de sa vie privée ?
C'est les risques du métier aujourd'hui. Je veux dire par là que oui,
c'est, bien dit, assez...
c'est les risques du métier. Ça a été le cas avec Hollande sur son scooter allant à son rendez-vous avec Julie Gayet.
Oui, mais là, bon, mais simplement, pas alors il a,
c'est pas, ouais. Ça mérite peut-être pas un excès. Ça mérite pas qu'on en parle pendant 4 jours peut-être. Il y a rien de répréhensible, il y a rien d'illégal. C'est simplement dans la tête des gens peut-être une attitude. On se dit, est-ce que c'est bien que le monsieur qui est en charge de la sécurité oui. actuellement des manifestations qui ont été dures, qu'il a su d'ailleurs assez bien manager après quelques hésitations au début, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bien que ce monsieur-là aille prendre à faire la fête avec ses copains pour un anniversaire, je crois, dit-il, et ses copains-copines le soir, bon. Alors vous me direz, c'est la vie des gens, ça, c'est la vie des gens. La journée, je suis le chef des flics, et le soir, je me retrouve avec mes copains. Je crois que c'est toujours un peu gênant pour l'image du personnage.
Oui,
ça abîme l'image du personnage.
Charles. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'il incarne, ministre de l'Intérieur, le premier des flics de France, le jour des Gilets jaunes d'ailleurs, c'est un samedi, après des manifestations, des violences, etc., le ministre de l'Intérieur va donc se rafraîchir un peu.
Quand terme galant, ces choses-là sont dites.
Oui, bah, il faut bien que... Alors maintenant, c'est vrai, moi je suis d'accord avec Gérard, par rapport à ce qu'il incarne, c'est vrai que ça peut choquer un certain nombre d'esprits. Mais il y a une autre manière aussi d'expliquer ça, si vous voulez, un peu dérisoire. Il faut bien que Yves Saint-Laurent, Gainsbourg, Johnny Hallyday, Mick Jagger, qui ont été les piliers de Paris la nuit pendant des mois, trouvent un successeur.
Qui l'eût cru, ce sera Christophe Castaner.
Non, moi, Catherine. Je trouve que ça pose quand même un problème, parce que tous les ministres de l'Intérieur... Enfin, moi, je ne connais pas de cas où un ministre de l'Intérieur est allé faire la fête dans une boîte. C'était peut-être un moment aussi où on ne savait pas que... Il savait bien qu'il serait pris en photo. Je veux dire, vous ne pouvez pas aller dans une fête où il y a des gens. Difficile. C'est quand même... Il y avait le risque. Aujourd'hui, tout se sait. Bon. Donc, il s'exposait. Ça, donc, c'était quand même un peu naïf de croire que ça ne se saurait pas. Donc, il prenait des risques. On raconte... Moi, je ne sais pas pourquoi, je ne reçois jamais Voici. Je l'ai reçu cette semaine, voilà, comme c'était 30. Comme par hasard, je l'ai reçu.
C'est le karma, ça.
Et que nous dit le texte,
c'est que...
C'est qu'il a bu plusieurs vodkas. Bon, moi, je me disais... parce que tous les ministres de l'Intérieur à qui j'ai parlé disent qu'on entre là comme un sacerdoce et on est bloqué. Parce qu'imaginez, que Dieu ne pèse, je touche du bois, il y a eu dans la foulée un événement, comme il y avait eu un événement tragique. Bon, il sortait de boîte en ayant bu plusieurs vodkas. Peut-être que l'élocution, elle aurait là.
Peut-être qu'on aurait envoyé Laurent Nunez.
On aurait envoyé Laurent Nunez. Non, bon, c'est ça, vous voyez, qui est un peu.
Ça,
qui pose,
ça trouble l'image.
Ça trouble
ça
l'image.
Ça trouble l'image
bon.
Du
mais
personnage.
Mais à part ça, bon, c'est un homme,
l'intérieur.
Qu'est-ce que vous voulez, qui travaille tous les samedis. Il faut bien que le corps exulte de temps en temps. C'est de son âge, il y a 40 ans. Enfin bon.
Non. 10 de plus, quand même.
Ah bon, d'accord. Oui.
Si tu veux. Mais dans ce cas-là, vaut mieux faire un pot à la maison, quoi, avec ses copains.
Mais oui, vaut mieux faire un pot.
Avec un pot à la maison, c'est plus. Tandis que dans une boîte et tout, c'est... Mais, et en plus, Castaner a été, avant d'être un homme politique, si je me souviens bien, ça a été un homme qui pratiquait un peu le...
Il jouait au poker.
Il jouait, c'était un joueur. Alors peut-être que... D'abord, quand on joue au poker et qu'on fait sa carrière dans le poker, on est un peu... On aime la vie de la nuit. On aime les boîtes, on aime tout ça.
Mais du côté de Marseille, il a quelques compagnons de route que lorsqu'il était au Conseil Général qui se rappellent un certain nombre de sorties nocturnes tumultueuses.
C'est la bamboche, comme disait le général
oui,
de Gaulle.
C'est la bamboche. Ouais.
Mais le ministre de l'Intérieur ne doit pas bambocher.
J'aime bien parce qu'on arrive avec vous, cher Grandevoix, à dire les choses et sans être dans le discours moralisateur qu'on a pu entendre aussi finalement.
Voilà. C'est d'ailleurs l'écueil qu'on ne voulait pas... On a eu cette discussion avec Catherine.
Après Edouard Philippe, je l'ai dit, la question lui a été posée. Il a botté en touche quand Jean-Michel Apathy lui a insisté. Et il avait raison.
Mais c'est son grand copain. Il s'appelle Mapoule, tous les deux.
Exactement. Et ensuite, j'invite nos auditeurs à aller voir la vidéo de Nicolas Canteloup. Parce que Nicolas Canteloup commence sur Castaner. Et là, on voit qu'Edouard Philippe est professionnel. C'est poker face, pas un rictus. il fait rire sur Alain Juppé et ensuite il revient sur Castaner. Et là, Edouard Philippe a un peu plus de mal à se contenir. Allez voir la vidéo sur Europe1.fr, 19h47.
Europe 1.
Vous restez sur Europe 1, le débat qui continue avec les grandes voix, comme tous les vendredis, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. On est ensemble jusqu'à 20h.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Et nous nous sommes réveillés avec cette nouvelle terrifiante de Nouvelle-Zélande, 49 morts après une attaque terroriste dans deux mosquées de Christchurch. On est au sud de la Nouvelle-Zélande, on est à l'autre bout du monde, cette tuerie d'un suprémaciste d'extrême droite. C'est son profil, hein, je crois d'ailleurs, qui vous a interpellé, Gérard.
Ce qui est frappant, oui, c'est un suprémaciste blanc. En général, c'est aux États-Unis qu'il y a un certain nombre. Il y a beaucoup d'associations. Oui. Dans toutes les prisons américaines, Dieu sait s'il y en a en Amérique, des prisons, il y a toujours un groupe qui, ce sont les Aryens, les suprémacistes blancs, etc. Ils se réunissent entre eux. Bon, ils font un lobby, quoi, un groupe de pression dans l'intérieur de la prison. Souvent, ils font la loi, d'ailleurs, à l'intérieur de la prison. Mais ce qui m'a frappé dans le tueur là, de Nouvelle-Zélande, c'est qu'il dit dans les 60, il a fait un papier de 74 pages, je crois. Il dit : j'ai appris à tirer en regardant, en travaillant sur les jeux vidéo. Et effectivement, je crois que Charles a vu des images. Quand on voit des images, j'espère que ces images ne seront pas diffusées parce qu'elles sont terribles. Mais quand on voit des images, on voit effectivement un type, c'est comme s'il jouait avec un jeu vidéo, tac, 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 et il tue les gens comme ça. Et là, je me dis que tout d'un coup, il y a peut-être dans notre civilisation un danger, c'est qu'à force de pratiquer la guerre sur les jeux vidéo, et Dieu sait si beaucoup de jeunes participent à ça, on crée quelque part, on mélange le réel et le virtuel. Et on finit par oublier qu'on tue des hommes de chair et de sang. Et
ce sont des jeux stratégiques qui mettent en scène ce type d'opération, en effet. On me les a envoyés, d'ailleurs, sur mon portable, justement, non, les images.
Filmé, c'est vrai que ça y ressemble. Il y a une GoPro, ces petites caméras sur l'arme.
Comme Mera, absolument.
Comme Mera.
C'est inspiré, d'ailleurs, c'est même, à un moment donné, Daesh recommandait à ses affidés, à ses terroristes, de se filmer afin de revendiquer. Nemouche aussi, qui vient d'être condamné à perpétuité pour le quadruple assassinat de la synagogue de Bruxelles.
Du musée juif de Bruxelles.
Lui aussi a filmé son aventure meurtrière. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on n'en sait pas plus. Alors c'est peut-être, c'est tout à fait, je rejoins Gérard sur le fait que c'est un suprémaciste. Il l'a dit lui-même, hein, je crois. Bon. Et puis que toutes les victimes des deux mosquées, puisqu'il a tué dans deux mosquées, sont des migrants, c'est la première ministre qui l'a confirmé, et des réfugiés. Donc évidemment, c'est un acte terroriste, c'est-à-dire politique en même temps. Donc, et c'est une attaque d'une violence incroyable, surtout dans ce pays qui est assez paisible, qui est divisé en deux îles de 4 millions d'habitants, de la Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, tous les All Blacks, notamment du rugby, puisque c'est leur produit quasiment le plus connu dans le monde, ont réagi immédiatement, ont envoyé des tweets de condoléances et d'affliction. Mais c'est assez étonnant, c'est un Australien en plus. L'Australie est à 2000 km de la Nouvelle-Zélande.
Oui, on a l'impression que c'est juste à côté, mais c'est quand même...
Oui.
Non, mais c'est bizarre que cet homme se soit attaqué à la Nouvelle-Zélande, où il y a 4 à 5 millions d'habitants, et seulement 1% de cette population se dit musulmane. Donc c'est une très faible minorité, alors que les gens dont ils se recommandent, eux pensent qu'il y a un grand remplacement, que c'est vraiment le danger pour demain de toutes ces populations.
Des préoccupations des Néo-Zélandais.
Donc c'est pas celle des parce que les musulmans sont minoritaires, donc c'est assez ça je dois dire qu'ils n'étaient pas surveillés. Je comprends qu'ils ne l'aient pas été parce qu'ils n'étaient pas personne ne pouvait penser qu'ils se préparaient depuis 2 ans.
Il y a quand même ça crée un choc. J'ai entendu une réaction prise dans un reportage de radio dans la communauté musulmane. Et j'ai entendu des musulmans dire, après cet attentat, il faut que nous nous resserrions sur nos valeurs, il ne faut pas qu'on panique, il faut qu'on continue à vivre comme
c'est
avant.
C'est la mosquée de Paris.
Il faut qu'on garde.
C'est à la
et
mosquée
je me
de Paris.
Disais, en écoutant, c'était un imam qui disait ça, j'avais l'impression
c'est
d'entendre...
C'est sur Europe 1, d'ailleurs, tout à l'heure.
Sur Europe, tout à l'heure, oui. Les réactions des Français après les attentats que nous avons connus. On disait, on veut garder notre mode de vie, il ne faut pas paniquer, il faut rester. Mais c'est pas, pourquoi ils disaient ça? Parce que c'est la première fois qu'un attentat aussi spectaculaire, aussi terrible et horrible frappe la communauté musulmane depuis quelques années en Occident, depuis qu'on parle du terrorisme radical islamique.
19h55, merci beaucoup mes chers grandes voix, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Nous avons pu échanger ce soir et nous sommes au bout de ce grand journal du soir. Merci à vous trois.